Bien, alors pour cette dernière présentation de la journée, nous allons écouter Philippe Drapeau-Contim de l'Université de Rennes qui va présenter un exposé intitulé L'essence en principe. Je présente Philippe Drapeau-Contim en quelques mots. Il est maître de conférence en métaphysique et en philosophie du langage à l'Université de Rennes 1 et directeur adjoint du Centre Atlantique de philosophie. Pour le site Rennais. Donc, ses travaux portent principalement sur la métaphysique des modalités, l'identité, les théories de la référence, la sémantique des termes d'espèce, parmi d'autres sujets. Il a publié un ouvrage, Kripke, Références et modalités, en 2005 au PUF, et deux autres ouvrages, Qu'est-ce que l'identité chez Vrin en 2010, puis un livre qui s'intitule Modal Matters chez Quimet en 2012. Voilà.
Merci beaucoup à Claudine Tiercelin, Jean-Baptiste Guillon et Alexandre Desclos pour l'organisation de ce colloque et puis aussi pour l'invitation. Donc il y a un doubt qui est en train de circuler, qui est assez roboratif, mais je crois que ça va être plus simple pour me suivre. Alors, donc l'essence en principe. Donc depuis le milieu des années 1990, une nouvelle conception de l'essence a fait son apparition, ou plutôt sa réapparition, sous la plume d'auteurs tels que Kit Fine, Jonathan Low, Bob Hale ou Gideon Rosen. Selon cette conception, le concept d'essence est un concept prémodal, au sens où, premièrement, l'essence ne peut pas être réduite à la nécessité d'errer, c'est-à-dire à l'idée de propriété nécessaire d'un objet. Deuxièmement, l'essence prime sur la nécessité. C'est l'essence qui doit analyser ou fonder la nécessité, et non l'inverse. Alors, dans mon exposé, je tiendrai pour acquis le concept prémodal d'essence est viable, et je me concentrerai sur le second point, qui est de savoir si l'essence peut fonder le nécessaire et le possible au sens métaphysique de la modalité. Et pour ce faire, je commencerai par esquisser une logique de l'essence, et je ferai valoir qu'on ne peut pas déduire la logique du nécessaire à partir de la logique de l'essence, à moins d'accepter un certain principe de fondation. Et ce principe stipule que tout énoncé qui est vrai nécessairement doit être vrai en vertu de l'essence d'une chose ou d'une autre. Je montrerai que malheureusement, le principe de fondation est violé par tous les énoncés qui rapportent que deux objets concrets sont numériquement distincts entre eux. Je tâcherai de montrer en effet que dans ce genre de cas, les énoncés de distinction sont vrais nécessairement sans pour être vrais en vertu d'une essence. Mais alors, si le principe de fondation est faux, est-ce que ça signifie qu'on doit admettre des nécessités brutes ? On revient à la brutalité d'Alexandre, c'est-à-dire des nécessités brutes, des nécessités non fondées sur l'essence. Non, dans ma conclusion, j'essaierai de vous convaincre qu'en dépit de ces contre-exemples, toute vérité nécessaire est ou bien fondée directement sur une essence, ou bien fondée indirectement sur une essence, en étant dérivée d'un conditionnel général de nécessité qui, lui, est fondé sur l'essence. Alors je commence quand même par rappeler brièvement les raisons qui font qu'un nombre croissant d'auteurs renoue aujourd'hui avec la conception prémodale de l'essence. Jusqu'au milieu des années 1990, la définition modale de l'essence faisait plus ou moins consensus. Selon cette conception, l'essence est définie en termes de nécessité d'errer. Une propriété P est dite essentielle à un objet, A, si et seulement si A possède P nécessairement. Autrement dit, si dans tous les mondes possibles où A existe, A possède la propriété P. Malheureusement, comme l'a montré Kit Fine, la définition modale de l'essence conduit à des attributions erronées d'essence. Considérons en effet deux objets numériquement distincts entre eux, quelconques, par exemple Socrate et Darius. En vertu du théorème de la nécessité de la distinction, qui est un théorème de logique modale, si Socrate est actuellement distinct de Darius, alors ils sont nécessairement distincts entre eux. Il n'aurait pas pu être le même homme dans un monde possible. Il s'ensuit que dans tous les mondes possibles où Socrate et Darius existent, Socrate possède la propriété d'être distinct de Darius. En vertu de la définition modale de l'essence, on devrait donc conclure que cela fait partie de l'essence de Socrate que d'être distinct de Darius. Et on devrait bien sûr étendre cette conclusion à la foule d'objets actuels dont Socrate est numériquement distinct. Donc il ferait partie de l'essence de Socrate d'être distinct de Darius, bien sûr, mais aussi d'être distinct de Louis XIV, de Madonna, du Mont Everest, du nombre 5, de n'importe quel neutrino existant dans l'univers. Ce qui est absurde. Ça fait sans doute partie de l'essence de Socrate d'être un homme, un organisme ou une personne, au choix, Mais la nature de Socrate n'enveloppe pas de références singulières à des objets qui sont sans rapport avec ce qui fait que Socrate est ce qu'il est. On en conclut que la notion d'essence est une notion dont le grain est trop fin pour être analysé en termes de nécessité ou de possibilité, et a fortiori en termes de monde possible. Donc des auteurs comme Kit Fine, Jonathan Low, Bob Hay ou Gideon Rosen suggèrent donc aujourd'hui de revenir à une notion prémodale d'essence dans une veine qui se veut aristotélicienne. Il faut, selon eux, concevoir l'essence non plus en termes modaux, c'est-à-dire comme les propriétés nécessaires d'un objet sans lesquelles il ne pourrait pas exister, mais il faut concevoir l'essence en termes d'identité et d'explication et renouer avec la vénérable conception de l'essence qui en fait la définition réelle d'une chose. L'essence comme ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Alors évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur les critères qu'on utilise ici pour trier entre les propriétés nécessaires qui font partie de l'essence d'un objet et celles qui n'en font pas partie mais qui en découlent seulement. Mais faute de temps, je laisse ce point de côté car c'est un autre point que je voudrais examiner aujourd'hui. En effet, les amis de l'essence, comme Fine, Low, Hale, et il y en a d'autres dans la salle, ne cherchent pas seulement à développer une théorie non modale de l'essence. Ils entendent aussi inverser la priorité et utiliser la théorie de l'essence afin d'analyser, ou du moins de fonder, la nécessité et la possibilité, au sens métaphysique du terme, sur l'essence. Et on en a besoin, car de l'avis général, la métaphysique modale, dans son état actuel, est en manque de fondement. Entre autres, le métaphysicien des mondes possibles nous dit par exemple que Socrate est nécessairement une personne, car Socrate est une personne dans tous les mondes possibles où il existe. Mais évidemment, se repose la question du pourquoi. Pourquoi, au juste, Socrate est une personne dans tous les mondes possibles? Est-ce que c'est un fait métaphysique brut, une sorte de coïncidence cosmique étendue à l'espace des possibilités? Pourquoi est-ce que l'espace des possibilités n'inculte-t-il pas un scénario où Socrate est un arbre ou une pierre? Alors, on répondra que l'espace des possibilités est ainsi fait parce que le métaphysicien travaille sur l'ensemble des mondes métaphysiquement possibles. Et qu'un monde métaphysiquement possible, ce n'est pas seulement un monde logiquement possible, c'est-à-dire un monde dont la description est compatible avec les vérités logiques et conceptuelles, mais c'est un monde dont la description est censée être aussi compatible avec la nature des choses, d'où l'adverbe métaphysiquement. D'accord, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par compatible avec la nature des choses ? Si par nature d'une chose on entend l'essence au sens modal, c'est-à-dire en défini par une quantification sur les mondes possibles, alors caractériser les mondes comme étant métaphysiquement possibles est complètement circulaire. Et pour sortir du cercle, on a donc besoin d'un concept prémodal d'essence ou de nature qui contraigne du dehors l'espace des mondes possibles, ce qui revient à fonder la nécessité sur l'essence. Alors, lorsqu'on veut fonder la nécessité sur l'essence, il faut non seulement s'assurer que les propriétés formelles de l'essence sont compatibles avec celles de la nécessité, mais il faut encore montrer que les propriétés de l'essence sont suffisantes pour dériver toutes les vérités logiques concernant le nécessaire et le possible au sens métaphysique. Et il y en a beaucoup, à savoir l'axiome T de factivité de la nécessité, le principe K de distributivité de la nécessité, l'axiome de Brouwer, la thèse de la nécessité de l'identité, l'axiome S4 d'itération de la nécessité, et j'arrête de vous marteler avec ça. Bref, la question est, est-ce qu'on peut dériver la logique du nécessaire à partir de la logique de l'essence? Et pour y répondre, il faut déjà avoir une certaine idée de ce que pourrait être la logique de l'essence. Alors pour ce faire, j'introduirai un opérateur d'essence à la suite de Kit Fine et surtout de Bob Hale, dont j'emprunte ici le formalisme. Cet opérateur est de la forme « il est vrai en vertu de l'essence de A que P », où A est une constante singulière désignant une certaine entité ou chose, et où P est un énoncé décrivant une propriété faisant partie de l'essence de la chose concernée, au sens prémodal d'essence ou de nature dont j'ai parlé plus haut. Donc en bas de la page 1 de Handout, je représente l'opérateur d'essence au moyen d'un carré noir indicé par une constante singulière. Et désormais, lorsqu'un énoncé peut être enchâssé véridiquement par l'opérateur d'essence, je dirais que cet énoncé est une vérité essentielle, c'est-à-dire un énoncé qui est vrai en vertu de l'essence d'une chose. Donc, à titre d'exemple, vous trouverez formalisé, donc toujours en bas de la page 1 de Handout, l'énoncé « il est vrai en vertu de l'essence de Socrate que Socrate est une personne » ou l'énoncé « il n'est pas vrai en vertu de l'essence de Socrate que Socrate soit distinct d'Arius ». Et comme pour les opérateurs modaux, j'introduirai un deuxième opérateur essentialiste, qui est le dual de l'opérateur d'essence, et que j'appellerai l'opérateur de compatibilité, et que je note au moyen d'un losange noir en haut de la page 2 du handout. Donc une formule du type losange noir indicé A suivi de l'énoncé P signifie il n'est pas vrai en vertu de l'essence de A que non P. Autrement dit, il n'est pas exclu par l'essence de A que P. Il est compatible avec la nature de A que P. Enfin, et c'est là un point crucial lorsqu'on veut fonder la nécessité sur l'essence, on peut quantifier existentiellement et universellement sur les indices des opérateurs essentialistes. Et on obtient alors des formules comme « il y a quelque chose dont l'essence fait que P » et d'autres formules quantifiées du même genre que vous trouvez en haut de la page 2 du handout. Alors évidemment, ça soulève la question « quel genre de choses exactement sont désignées par les indices des opérateurs essentialistes ?» Donc, comme Bob Hale, je ne formulerai aucun réquisit particulier pour être une entité admissible, mis à part celui d'avoir des conditions d'identité. Les termes indiçant des opérateurs essentialistes peuvent donc désigner des objets concrets spatio-temporels, comme Socrate, mais aussi des objets abstraits, comme les nombres, les ensembles, les fonctions, les propriétés ou les relations. Donc, comme exemple de vérité essentielle, j'admettrai des énoncés comme ceux que vous trouvez à la page 2 du handout. Il est vrai en vertu de l'essence de l'antinaturel 2 que 2 est le successeur immédiat de 1 dans la suite des antinaturels. Il est vrai en vertu de l'essence de la relation être une partie de que cette relation est transitive. Ou encore, il est vrai en vertu de l'essence de la fonction logique de l'implication matérielle que toute instance du verum sequitur ad colibet, si P alors si Q alors P, est vrai. Alors, devant ce genre d'exemple, vous me demanderez peut-être, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que la transitivité de la relation de parties, ou le verum sequitur ad colibet, font bien partie de l'essence des objets concernés ? Pourquoi ça ne serait pas plutôt de simples propriétés nécessaires, c'est-à-dire des propriétés qui découlent de vérités essentielles, mais qui restent néanmoins extérieures à l'essence ? Alors, tout dépend de l'axiomatique choisie. Je tiendrai en effet ici pour acquis que les axiomes sont les définitions implicites des relations ou des fonctions dont ils décrivent les propriétés, et dans cette mesure, ces propriétés font partie de leur essence. Par exemple, si comme Lukasiewicz, on choisit de faire du verum sequitur ad colibet, le VSQ pour faire court, l'un des axiomes gouvernant l'implication matérielle, alors toute instance du VSQ sera une vérité essentielle à propos de l'implication matérielle. Mais le point important, c'est qu'il faut garder en tête que ce que les axiomes définissent implicitement, ce ne sont pas les symboles qu'ils contiennent, comme la flèche ou l'implication inversée de Peano, mais ce sont les entités elles-mêmes que ces symboles représentent, c'est-à-dire la fonction logique de l'implication qu'on peut indifféremment représenter par la flèche ou par le symbole de Peano. Donc ici, les axiomes sont donc des définitions réelles et non pas des définitions nominales. Dire qu'une instance du VSQ est vraie en vertu de la nature de l'implication matérielle ne revient donc pas du tout à dire que cette instance serait vraie en vertu de la signification conventionnelle qu'on attribue au symbole de la flèche. Il ne s'agit pas du tout ici de réactiver le vieux slogan du « vrai en vertu de la signification » ou de « vrai par convention » que je rejette ici pour les raisons familières invoquées par Quine. Enfin, dernière précision concernant l'opérateur d'essence, l'opérateur peut recevoir plusieurs indices, car il existe aussi ce qu'on peut appeler des vérités essentielles conjointes, c'est-à-dire des énoncés qui sont vrais non pas en vertu de l'essence d'une seule chose, mais en vertu des essences conjointes de plusieurs choses. Donc, considérons par exemple l'énoncé disjonctif 1 que vous trouvez en bas de la page 2 du handout. Socrate est une personne où il pleut à Paris le 2 octobre 2018. Remplacé par il est nuageux à Paris le 2 octobre 2018, okay, pour rendre ça vrai. L'énoncé 1 est nécessairement vrai, car son membre de gauche est nécessairement vrai. L'ami les essences aimerait fonder la nécessité de 1, mais dans ce cas présent, ce n'est pas possible si on considère les essences isolément. En effet, l'énoncé 1 ne peut pas être vrai en vertu de l'essence de Socrate, car la description de l'essence de Socrate n'inclut pas de référence à la météo parisienne. De même, l'énoncé 1 ne peut pas être vrai en vertu de l'essence de la fonction logique de la disjonction, car rien dans la nature de la disjonction ne garantit qu'au moins l'un des deux membres de 1 est vrai. En revanche, on peut dire que l'énoncé 1 est vrai en vertu des essences conjointes de Socrate et de la disjonction. Pourquoi ? Parce que, premièrement, le membre de gauche, c'est-à-dire l'énoncé « Socrate est une personne », est vrai en vertu de l'essence de Socrate, Et deuxièmement, l'essence de la disjonction garantit que l'énoncé disjonctif est vrai à partir du moment où l'un de ces deux membres est vrai. Donc sur ce point, je vous renvoie en haut de la page 3 du handout, où je donne une caractérisation générale de ce que j'entendrai ici par énoncé vrai en vertu des sens conjointes. Alors, maintenant qu'on a introduit l'opérateur d'essence, voyons à quoi peut ressembler une logique de l'essence afin de savoir si une telle logique permet de dériver la logique du nécessaire au sens métaphysique. Alors, pour fonder la logique du nécessaire et du possible sur la logique de l'essence, il nous faut, premièrement, une liste d'axiomes ou de règles d'inférence gouvernant l'opérateur d'essence, et deuxièmement, un ou plusieurs principes ponts qui connectent la nécessité, l'essence à la nécessité, et qui, une fois combinés aux axiomes de l'essence, permettent de dériver toutes les thèses de la logique du nécessaire et du possible. Donc je formule, page 3 du handout, un premier axiome qui exprime la factivité de l'opérateur d'essence. Cet axiome dit que s'il est vrai en vertu de l'essence d'une chose A que P, alors il est le cas que P. Et je l'appellerai T étoile, car c'est l'analogue de l'axiome T de la logique modale. Et il tire sa justification tout simplement du fait que le concept de « être vrai en vertu de l'essence de » exprime une manière dont un énoncé est vrai, ce qui implique a fortiori que l'énoncé est vrai. Je me donne ensuite un deuxième axiome, l'axiome de distributivité de l'opérateur d'essence à l'égard de l'implication essentielle, axiome que j'appellerai K étoile, car c'est l'analogue de l'axiome K de la logique modale. K étoile dit que si P implique Q en vertu de l'essence d'une chose A, alors si l'antécédent P est vrai en vertu de l'essence d'une chose B, alors le conséquent Q est vrai en vertu des essences conjointes de A et de B. Je passe sur l'autre règle, parce que, faute de temps, je n'ai pas envie de m'apesantir ici sur les axiomes ni sur leur justification, car je voudrais en venir tout de suite à un point névralgique, à savoir le statut des axiomes dans lesquels les opérateurs essentialistes sont itérés. En effet, sans ce genre d'axiome, on ne peut pas dériver les axiomes modaux, itératifs, comme l'axiome de Brouwer ou l'axiome S4. Dont parlait Pierre Saint-Germier tout à l'heure. Or, c'est là que les difficultés commencent. Est-ce que ça a un sens d'itérer les opérateurs essentialistes, d'itérer les sens, si vous voulez ? Je soutiens que oui, il me semble qu'il y a au moins un axiome itératif qui est intuitivement valide. Il s'agit de l'axiome que j'appellerais S4 étoile, car c'est l'un des analogues de l'axiome S4. S4 étoile dit que si P est vrai en vertu de l'essence d'une chose, A, alors il existe quelque chose dont l'essence fait que P est vrai en vertu de l'essence de A. En somme, là où S4 dit qu'une vérité nécessaire est nécessairement nécessaire, S4 étoile dit qu'une vérité essentielle est essentiellement essentielle. Alors, pour plaider la cause de S4 étoile, je partirai de l'exemple de l'eau, l'exemple préféré des métaphysiciens. Nous savons que ça fait partie de la nature de l'eau que d'avoir pour formule moléculaire H2O. Mais ceci n'est pas un fait essentiel brut, car on peut repousser plus loin l'explication et se demander mais comment, qu'est-ce qui fait que la formule H2O fait partie de la nature de l'eau ? Comment le savons-nous ? Nous le savons en vertu de trois connaissances préalables. Premièrement, nous avons découvert empiriquement que l'eau est composée de molécules de H2O et non de molécules de HO, comme on l'envisagea jusqu'en 1901. Deuxièmement, nous savons que la nature de l'eau, c'est d'être une substance. Et troisièmement, nous savons qu'en général, la nature d'une substance repose dans sa structure microphysique, et plus précisément ici dans sa formule moléculaire, généralité connue parfois sous le nom de principe micro-essentialiste. Donc concentrons-nous sur ce principe micro-essentialiste. Ce principe dit en fait que la catégorie d'être une substance détermine non pas l'essence particulière de ses instances, par exemple pour l'eau le fait d'être du H2O plutôt que d'être du HO, mais le type d'essence de ces instances. Par exemple, pour l'eau, le fait que c'est sa formule moléculaire, quelle qu'elle soit, qui lui est essentielle, et non pas ses propriétés phénoménales. Dans la logique de l'essence, le principe micro-essentialiste est donc une vérité essentielle générale qu'on peut formaliser, comme je le fais donc à la page 3 du handout, un peu plutôt en bas. Prémisse 1. Il est vrai en vertu de l'essence de la catégorie d'être une substance que la formule moléculaire d'une substance fait partie de son essence. Et comme on le voit sous sa forme formalisée, ce principe général conditionnel emboîte deux opérateurs d'essence l'un dans l'autre. On a donc l'amorce d'une itération de l'opérateur. Si on combine, premièrement, le principe micro-essentialiste, deuxièmement, la prémisse 2, selon laquelle l'eau est par essence une substance, et troisièmement, la prémisse 3, selon laquelle il est essentiel à l'eau d'avoir pour formule moléculaire H2O, alors, en appliquant l'axiome de distributivité K étoile à ces trois prémisses, je vous épargne la preuve, on obtient, je ne vous épargne pas complètement, je l'ai mise en haut de la page 4, on obtient une conclusion itérative qui dit, donc toujours en haut de la page 4, il est vrai en vertu des essences conjointes de la catégorie d'être une substance et de l'eau, que l'eau a essentiellement pour formule H2O. Et on obtient la conclusion itérative qui est attendue selon l'axiome S4 étoile. Le point important, au-delà de l'exemple, c'est qu'on peut s'attendre à ce que ce type d'itération vaille pour toutes les entités, et pas simplement pour l'eau ou les substances chimiques. En effet, on peut arguer que chaque entité a une essence dont le type est fixé par sa catégorie, c'est-à-dire la sorte la plus générale sous laquelle tombe cette entité. Et ça fait partie de l'essence d'une catégorie que de fixer le type d'essence possédée par ces instances. On peut donc reproduire le schéma d'argument qui a été appliqué à l'eau pour n'importe quelle entité. Alors, il resterait d'autres axiomes dont il faudrait examiner la validité, mais il me semble urgent d'en venir maintenant à la discussion des principes ponts entre l'essence et la nécessité, car c'est là que se niche la principale difficulté. Ces principes ponts doivent permettre de convertir chaque énoncé modal en énoncé essentialiste et vice-versa. Et sans ces règles de correspondance, il est tout simplement impossible de fonder la logique du nécessaire sur celle de l'essence. Alors, le principe pont fondamental prend la forme d'une équivalence que vous trouvez au milieu de la page 4 des Hermdaut et qui dit « Il est nécessaire que P, si et seulement si, il y a une chose dont l'essence rend vrai l'énoncé P. » Alors, pourquoi est-ce que je parle ici d'équivalence de façon un peu frileuse plutôt que de définition du nécessaire par l'essence, comme le font d'autres auteurs ? Parce qu'à mon avis, les concepts en jeu de part et d'autre de l'équivalence sont trop différents pour autoriser une définition. Comme on l'a vu avec Heatfine, le concept d'essence n'est pas un concept modal au sens strict, c'est-à-dire qui a trait à la possibilité et à la nécessité. Définir la nécessité par l'essence reviendrait donc ou bien à changer de sujet en vidant le concept de nécessité de son sens modal, ou bien par contre-coup à modaliser implicitement la notion d'essence. Alors on pourrait m'objecter que l'impossibilité de définir le concept de nécessité par celui d'essence n'empêche pas de réduire la nécessité à l'essence. On fera valoir par exemple que la température d'un gaz n'est rien d'autre que l'énergie cinétique moyenne des molécules qu'il compose, même si le concept thermodynamique de température ne peut pas être défini par le concept mécanique d'énergie cinétique. De même, on pourrait arguer qu'un fait de nécessité n'est rien d'autre qu'un fait d'essence, tout en reconnaissant que le concept de nécessité ne peut pas être défini par le concept d'essence. Mais même cette dernière position me paraît à la fois inutilement risquée et surtout incompatible avec le projet même de fondation ou de grounding que les amis de l'essence entendent mener à bien. En effet, la relation de fondation est, comme on l'a rappelé ce matin, irréflexive. Un fait ne se fonde pas lui-même. Donc, si l'on affirme, comme beaucoup le font, que l'essence fonde la nécessité, alors on doit dire aussi que les faits de nécessité sont distincts des faits d'essence, raison pour laquelle je m'en tiendrai ici à simplement la thèse d'équivalence. Alors, ce point étant clarifié, on peut décomposer l'équivalence en deux principes ponts. Le premier, que j'appellerai le principe de nécessité de l'essence, dit que si P est vrai en vertu de l'essence d'une chose, alors il est nécessaire que P. Autrement dit, toute vérité essentielle est une vérité nécessaire. Ou de façon équivalente, ce principe dit que ce qui est métaphysiquement possible doit être compatible avec toutes les essences. Alors, le principe de nécessité de l'essence est central pour le projet qui nous occupe, car ce principe dit que l'essence génère de la nécessité, qu'elle est une source de nécessité, ce qui est une condition nécessaire, mais non suffisante, on le verra, pour fonder la nécessité sur l'essence. Or, quelle raison avons-nous d'accepter ce principe ? Selon moi, le principe est vrai, car il est lui-même fondé sur une essence, à savoir l'essence de la propriété d'être métaphysiquement possible. Comme j'ai dit plus haut, l'idée de possibilité métaphysique, à la différence des autres notions de possibilité, enveloppe avec elle l'idée d'un possible qui est contraint par la nature des choses, c'est-à-dire d'un possible compatible avec toutes les essences. Cette condition contraignante n'épuise pas la définition de la possibilité métaphysique, mais ça rentre dans son essence. Le principe de nécessité est donc un énoncé qui est valide en vertu de l'essence de la possibilité métaphysique. Venons-en maintenant au second composant de la thèse d'équivalence, car c'est là que tout va se corser. Il s'agit du principe converse du principe de nécessité. Donc c'est un principe que j'appellerais le principe de fondation. Il dit que s'il est nécessaire que P, alors P est vrai en vertu de l'essence d'une chose. Autrement dit, toute vérité nécessaire est une vérité essentielle. Combiné au principe de nécessité, le principe de fondation revient à dire que l'essence n'est pas seulement une source de nécessité, mais plus encore qu'elle est la seule source de nécessité. Le principe exclut donc qu'il y ait des nécessités brutes, c'est-à-dire des énoncés, qui seraient nécessairement vrais, mais qui ne seraient pas vrais en vertu d'une essence. Ou autrement formulé, en termes de possibilité, le principe de fondation revient à dire que tout ce qui est compatible avec l'essence est forcément possible. Une sorte de principe de plénitude. Rien de ce qui est permis par l'essence ne peut être impossible. Et on en arrive maintenant à la question cruciale. Est-ce que le principe de fondation est défendable ? Malheureusement non, car comme je vais tenter de le montrer, il existe un grand nombre de nécessités brutes, c'est-à-dire de vérités nécessaires, mais non essentielles. Ces nécessités brutes sont générées par tous les cas dans lesquels deux objets concrets sont numériquement distincts l'un de l'autre. Alors, afin de bien comprendre ces contre-exemples au principe de fondation, je crois qu'on doit avoir à l'esprit une asymétrie qui existe entre l'identité et la distinction, asymétrie à laquelle Sébastien Motta a fait allusion ce matin. On sait que la nécessité de l'identité est un théorème de logique modale. Cette thèse dit que si A est identique à B, alors nécessairement A est identique à B, si A et B sont les désignateurs rigides. Donc soit par exemple l'énoncé d'identité Romain Garis et Émile Ajar, à partir du moment où les deux noms propres figurant dans l'énoncé d'identité sont actuellement coréférentiels, dans le monde actuel ils font référence au même objet, et qu'ils sont les désignateurs rigides, alors l'identité de Garis et d'Ajar est nécessaire. Garis n'aurait pas pu ne pas être Ajar. Or, d'après le principe de fondation, si cette identité est une vérité nécessaire, alors elle doit aussi être une vérité essentielle. Il doit exister une certaine chose dont l'essence fait que Garis est Ajar. Plus généralement, si le principe de fondation est juste, alors la logique de l'essence doit inclure la thèse de l'essentialité de l'identité qui dit que si A est identique à B, alors il y a une chose dont l'essence fait que A est identique à B. Mais quelle est cette mystérieuse chose, ou cette mystérieuse essence, qui a le pouvoir de rendre vrai et ancien l'identité ? La logique de l'essence nous dit que ce n'est pas l'essence particulière de l'objet A, par exemple l'essence particulière de Gary alias Ajar, mais c'est l'essence de la relation d'identité en général. En effet, en partant de la réflexivité de l'identité en général et de la loi de Leibniz, on peut prouver dans la logique de l'essence que si A est identique à B, alors il est vrai en vertu de l'essence de l'identité en général que A est identique à B. Et vous trouverez cette preuve au milieu de la page 5 du handout. Et comme Pierre Saint-Germier, je vous demande de croire sur parole. Vous vérifierez en rentrant chez vous. De façon plus informelle, on peut arguer que la réflexivité fait partie de l'essence de l'identité, puisque la réflexivité de l'identité fait l'objet de l'un des axiomes qui définissent implicitement l'identité, le fameux principe d'identité. Il est donc vrai en vertu de l'essence de l'identité que Garis est Garis. Or, le fait que Garis est Garis n'a rien d'autre que le fait que Garis est Ajar, autrement décrit. Car les deux noms propres, Romain Garis et Émile Ajar, sont les désignateurs rigides déjurés qui contribuent seulement par leur référent à la description des faits. Par conséquent, si l'essence de l'identité en général fait que Garis est Garis, alors elle fait aussi que Garis est Ajar, puisque c'est le même fait. Les identités nécessaires sont donc fondées sur l'essence. Mais qu'en est-il à présent des faits de distinction numérique ? Il est généralement admis que la logique de la modalité métaphysique inclut l'axiome de Brouwer, et qu'à ce titre, elle compte parmi ses théorèmes la thèse de la nécessité de la distinction que vous trouvez en bas de la page 5 du handout et qui dit que si A est distinct de B, alors nécessairement A est distinct de B. D'après le principe de fondation, on aurait donc s'attendre à ce que la logique de l'essence inclut la thèse analogue de l'essentialité de la distinction, qui dit que si A est distinct de B, alors il y a quelque chose dont l'essence fait que A est distinct de B. Malheureusement, c'est du moins ce que je vais soutenir, la thèse de l'essentialité de la distinction n'est pas valide. Je soutiens en effet qu'il y a un grand nombre d'énoncés de distinction numérique, pas tous, certains, qui sont des vérités nécessaires, mais qui ne sont pas des vérités essentielles. C'est ce que j'appellerais les cas de distinction non essentielle. Alors, les distinctions non essentielles surviennent lorsque la distinction concerne deux objets qui sont concrets, pas les objets abstraits comme les normes, etc., ou les ensembles, et de même catégorie ontologique. Par exemple, deux personnes. Donc, reprenons justement le fait que Socrate n'est pas la même personne que Darius. Dans la mesure où Socrate et Darius sont des objets concrets et non pas des objets abstraits comme les nombres ou les ensembles, ils n'ont pas de définition réelle qui contiendrait une propriété individuante ou différenciante, le problème est bien connu dans la métaphysique traditionnelle, qui permettrait de fonder leur distinction numérique. Plus généralement, ce n'est ni dans l'essence de Socrate, ni dans l'essence de Darius, ni même dans leur essence conjointe, qu'on pourra trouver le fondement de la distinction Socrate-Darius, car comme on l'a vu avec Kit Fine, l'essence de Socrate n'enveloppe pas de relation à des objets qui sont sans rapport avec ce qui fait que Socrate est ce qu'il est. Mais alors, quelle essence pourrait bien fonder la distinction de Socrate-Darius ? Une dernière option serait de dire que leur distinction est fondée sur l'essence de la relation d'identité en général, comme on l'a vu pour les faits d'identité. Puisqu'on a vu que l'énoncé Garis et Ajar est vrai en vertu de l'essence de l'identité en général, et plus exactement en vertu de la réflexivité de l'identité, on pourrait de même arguer que l'énoncé Socrate n'est pas Darius est vrai en vertu du fait que l'identité est par définition l'unique relation qui soit exclusivement réflexive et pas simplement réflexive. C'est la relation qu'un objet entretient avec lui-même et avec rien d'autre qui soit distinct de lui. Mais cette explication ne tient pas. Ce que garantit la définition de l'identité comme relation exclusivement réflexive, c'est que c'est une relation qui est fausse quand on l'applique à des objets qui sont distincts. Mais cette définition n'explique pas pourquoi ces objets sont distincts en premier lieu. Le fait de leur distinction est présupposé par la définition de l'identité, et non pas fondé par elle. Alors on me rétorquera qu'en partant de la logique de l'essence, on doit bien pouvoir donner une preuve, d'une manière ou d'une autre, que toute distinction est fondée sur l'essence de l'identité. Et en effet, on a vu plus haut que dans la logique de l'essence, on pouvait déduire la thèse de l'essentialité de l'identité. Est-ce qu'on ne pourrait pas alors déduire de la même façon la thèse de l'essentialité de la distinction ? Par exemple, en prouvant que si A est distinct de B, alors il est vrai en vertu de l'essence de l'identité en général que A est distinct de B. Non, car là encore, il y a une asymétrie entre l'identité et la distinction. Alors, en logique modale, on ne peut pas prouver la thèse de nécessité de la distinction à moins d'ajouter un axiome modal qui est très substantiel, à la différence de la thèse de nécessité de l'identité. C'est l'axiome de Brouwer. L'axiome de Brouwer dit que si un énoncé est vrai actuellement, alors il est nécessaire que le fait qu'il décrit est possible. De la même façon, pour prouver dans la logique de l'essence la thèse de l'essentialité de la distinction, il faut un nouvel axiome que j'appellerai Brouwer étoile, car c'est l'analogue de l'axiome de Brouwer. Axiome donc, que vous trouvez au milieu de la page 6 du handout. Brouwer étoile dit que si un énoncé est vrai, alors il doit avoir une certaine chose dont l'essence garantit que cette vérité est compatible avec toutes les essences. Or, le problème, c'est que je ne vois aucun candidat plausible pouvant jouer le rôle de cette mystérieuse chose surplombante dont l'essence garantirait la compatibilité de chaque vérité avec toutes les essences. Et il y a de bonnes raisons de penser qu'on ne pourra jamais trouver une telle essence. En effet, examinons d'un peu plus près l'effet de distinction engageant deux objets concrets de même catégorie, par exemple deux personnes. L'explication de pourquoi il y a deux personnes plutôt qu'une, dans une situation donnée, n'a rien de trivial. Le fait qu'il y ait ici deux personnes plutôt qu'une, ou là deux arbres plutôt qu'un, ou ici deux espèces biologiques plutôt qu'une, dépend de la satisfaction de conditions contingentes par des entités plus fondamentales, excusez-moi, que les personnes, les arbres ou les espèces biologiques. À savoir, le fait qu'il n'y ait pas de continuité psychologique entre tel état mental et tel autre, si on est loquien en matière d'identité personnelle, ou le fait que telle population soit isolée de telle autre par une barrière géographique, si on considère que la distinction des espèces biologiques repose sur l'isolement reproductif, etc., etc. Et c'est le fait d'appliquer à ces circonstances parfaitement contingentes une certaine propriété sortale qui délivre des conditions de distinction synchroniques, c'est-à-dire en même temps, et diachroniques. Par exemple, le sortal est une personne qui nous dit, selon Locke, c'est peut-être la même personne. Donc, il y aura deux personnes s'il n'y a pas de continuité psychologique, il y en aura une s'il y a continuité psychologique. Donc, c'est le fait qu'on applique ce sortal qui explique pourquoi il y a deux personnes plutôt qu'une, deux espèces biologiques plutôt qu'une, deux arbres plutôt qu'un. Dans la mesure donc où un fait de distinction, le fait qu'il y ait deux personnes plutôt qu'une, repose en partie sur l'obtention de conditions qui sont contingentes, ce type de fait ne peut pas découler d'une essence, car une essence ne peut pas générer des faits contingents en vertu du principe de la nécessité de l'essence. Mais alors, si les faits de distinction reposent en partie sur l'obtention de conditions contingentes, comment se fait-il au bout du compte qu'ils soient, comme par magie, nécessaires ? Car n'oublions pas, la nécessité de la distinction est un théorème de logique modale. Alors, à mon sens, le caractère nécessaire des faits de distinction résulte non pas d'une quelconque essence, ainsi, mais d'un trait formel de la possibilité métaphysique. Le fait que ce qui est le cas dans un monde possible constitue une possibilité du point de vue de n'importe quel autre monde possible. En d'autres termes, le fait que la relation dite d'accessibilité entre les mondes possibles soit symétrique. En effet, à partir du moment où l'obtention de conditions contingentes combinées à un certain sortal entraîne qu'il y a actuellement, dans une certaine situation, deux objets, A et B, alors ces objets n'auraient pas pu n'en former qu'un, car du point de vue d'un monde où, per impossibile, A et B ne seraient qu'un, notre monde actuel constituerait une possibilité où A et B sont deux objets distincts, ce qui violerait la nécessité de l'identité du point de vue du monde possible imaginé. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a des distinctions qui, partant pourtant de faits plus fondamentaux contingents, sont nécessitées, en dépit du fait qu'elles soient non essentielles. Ces vérités nécessaires mais inessentielles montrent qu'on ne peut pas dériver la logique du nécessaire de celle de l'essence, et donc on ne peut ni fonder la nécessité sur l'essence, ni a fortiori réduire réductivement la nécessité à l'essence. Je conclus. Est-ce que ce résultat négatif signifie qu'il y a des nécessités brutes, c'est-à-dire non fondées, comme je l'ai suggéré plus haut ? Alors, tout dépend de ce qu'on entend exactement par nécessité brute. Si on l'entend par là des énoncés qui sont vrais nécessairement sans être vrais en vertu de l'essence d'une chose, alors oui, l'examen des cas de distinction montre qu'il y a des nécessités brutes. Mais si par nécessité brute on entend des énoncés dont la vérité dans tous les mondes possibles serait un fait métaphysique primitif qu'on ne pourrait absolument pas expliquer en invoquant les essences, alors non, il n'y a pas de nécessité brute en ce sens dramatique. Alors pourquoi ? Parce que même s'il y a des vérités nécessaires mais inessentielles, on peut néanmoins introduire ces vérités nécessaires irréductibles dans la logique de l'essence sous la forme d'axiomes préfixés par l'opérateur d'essence. En effet, la possibilité métaphysique est une propriété et à ce titre, elle a une essence, comme on l'a vu. Or, cette essence inclut les propriétés d'itération de la modalité, propriétés qui sont énoncées par les axiomes modaux, dont l'axiome de Brouwer qui nous intéresse tellement. L'idée est donc d'ajouter à la logique de l'essence les vérités nécessaires irréductibles en les présentant comme des formules qui sont valides en vertu de l'essence de la propriété de possibilité métaphysique. On peut ainsi injecter le schéma de Brouwer, dont on a tellement besoin pour rendre compte de la nécessité métaphysique, au moyen d'un axiome essentialiste qui emboîte le schéma de Brouwer en disant « Il est vrai en vertu de l'essence de la possibilité métaphysique que si P, alors il est nécessairement possible que P. » Et ce nouvel axiome essentialiste, combiné à d'autres, ne nous donnera pas la thèse de la nécessité de la distinction, et heureusement, puisqu'on a vu que cette thèse est fausse, mais il permet de dériver une thèse plus faible, mais suffisante pour nos besoins, que je note dans la dernière page du Hermdat « Nécessité de la distinction étoile », je n'ai pas trouvé de meilleur nom, désolé, et qui dit « La nécessité de la distinction est valide en vertu de l'essence de la possibilité métaphysique et de l'identité. » Alors, en quoi est-ce que ça nous sauve de l'écueil des nécessités brutes ? Eh bien, reprenons l'énoncé de la distinction nécessaire de Socrate-Darius. Cet énoncé de nécessité découle de deux prémices. D'une part, la prémisse purement factuelle, que Socrate est distinct de Darius. C'est un fait. D'autre part, le conditionnel de nécessité qui dit que si Socrate est distinct de Darius, alors nécessairement Socrate est distinct de Darius. Et c'est de ce conditionnel de nécessité que l'énoncé de distinction nécessaire entre Socrate et Darius hérite sa nécessité. Or, ce conditionnel de nécessité est une instance de la thèse de la nécessité de la distinction, et on vient de voir justement que cette thèse est valide en vertu de l'essence de la possibilité métaphysique et de l'identité. Par conséquent, l'énoncé de la distinction Socrate-Darius n'est pas une nécessité brute, car même si cet énoncé n'est pas une vérité essentielle, il hérite néanmoins sa nécessité d'un conditionnel de nécessité qui, lui, est vrai en vertu d'une essence. Plus généralement, on peut conjecturer que toute vérité nécessaire est ou bien fondée immédiatement sur l'essence, c'est-à-dire vraie en vertu d'une essence, ou bien fondée indirectement sur les sens, en héritant sa nécessité d'un principe conditionnel de nécessité qui, lui, est fondé sur les sens. Et en ce sens, il n'y a pas de nécessité d'autre. Merci pour votre attention.